Bonsoir et puis merci donc à l'Espace Mendès France et puis à l'équipe des historiens de Poitiers de m'avoir invité ce soir. En effet, j'ai un profil assez particulier parce que je suis à la base j'ai fait de la biologie en fait avant d'arriver chez les archéologues de Rennes. Faut pas du tout s'y tromper. Hein. Mon but c'est pas de décrire les coquillages, c'est vraiment de décrire l'homme à partir des coquillages, donc leurs activités, la façon dont ils ont exploité l'environnement marin. Donc j'ai essayé en fait ce soir de vous dresser un panorama d'un peu toutes les problématiques qu'on a sur les périodes historiques le long de la Manche et de l'Atlantique française. J'ai essayé de mettre plusieurs dans ce PowerPoint plusieurs activités sur lesquelles nous travaillons au laboratoire. Donc je vais vous faire un petit bilan de ce qu'on connaît de l'alimentation des hommes donc au Moyen-Âge. Également, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que quand on travaille sur des sites archéologiques, c'est-à-dire que je participe à des fouilles. Ce que je vais essayer de vous montrer aussi, c'est que si vous allez sur un chantier de fouilles, vous allez ramasser quelques coquilles. Et puis finalement, on a mis en place à Rennes tout un protocole pour essayer de voir ce qu'il y a au-delà du visible. Donc on va faire des prélèvements de sédiments, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis je vais vous faire découvrir plein de petites choses comme ça. Ainsi, en fait, dans la deuxième partie, je vais vous montrer qu'il y a des coquillages qui sont sur les sites archéologiques, qu'on ne voit pas forcément, qui sont arrivés parfois même sur le site à l'insu de l'homme, mais qui décrit des activités liées donc en relation avec l'homme et l'environnement marin. Également, je vais juste présenter un travail en fait qu'avait fait un collègue sur des coquilles, les coquilles Saint-Jacques du pèlerinage, parce que je trouvais que ça intéressant à présenter aujourd'hui. Et je terminerai aussi par une activité qui est très peu connue sur nos côtes, qui est l'exploitation des coquillages pour faire de la teinture. Alors derrière le terme d'alimentation, en fait, vous allez voir, en fait, si vous-même vous allez à la pêche à pied, vous allez ramasser quelques espèces. Donc si vous êtes super spécialisé, vous allez aller à un endroit précis, vous allez aller dans une côte où vous savez qu'il y a, par exemple, si vous voulez des espèces de rochers, vous allez là où il y a des rochers. Et puis si vous allez au marché, vous n'allez pas forcément avoir la même chose. Donc c'est-à-dire que même quand on travaille sur des lots archéologiques, on arrive en fait à voir différentes phases de l'exploitation des coquillages, c'est-à-dire que si on a des coquillages qui sont très loin des terres, donc au Moyen-Âge, on arrive à faire la différence entre une pêche de coquillages qui est, enfin une consommation de coquillages qui est liée à un commerce, c'est-à-dire qu'on arrive à faire la différence entre des coquillages qui vont être, qu'on va payer en fait, qu'on va aller chercher, et une différence entre des gens qui habitent près de la côte et qui vont glaner les coquillages tous les jours. Et là, on va voir une sélection qui va être totalement différente. Donc, je vais vous montrer des exemples tout à l'heure. Alors, bien sûr, quand on parle de coquillages, on imagine tout de suite, on peut imaginer des beaux banquets comme ça. En tant qu'archéologue, nous, on travaille sur d'autres choses. On va travailler sur les poubelles. Donc, tout le monde est bien assis. Voilà. Donc, nous, on travaille sur ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière ça, en fait, les deux sont bien corrélés. Hein. Donc là, j'ai choisi pour commencer, là je vais vous montrer en fait deux accumulations de coquillages qui sont datées du Moyen-Âge, qui sont localisées donc dans la Manche, où vous pouvez reconnaître ici de la bernique, de la patelle, du bigorneau, et vous avez également des fragments d'huîtres. Je vais vous montrer une deuxième photo qui correspond exactement, qui a été d'un dépotoir, donc d'une fosse dépotoir qui a été retrouvée sur le même site. Qu'est-ce qu'on voit? On va voir également des bigorneaux, puis on va voir de la moule. Mais on ne va pas voir forcément de l'huître. Tout ça pour vous dire que quand on travaille sur les sites archéologiques, on ne va pas, comme je vous le disais juste avant, ramasser quelques coquilles. Ça ne suffit pas. Il va falloir avoir une vision générale du site, faire des prélèvements de sédiments, tamiser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, quels sont les coquillages qui sont consommés le long de la façade atlantique au Moyen-Âge? Donc là, je vous ai fait une petite planche en vous remettant les coquilles. Vous avez ici l'huître plate, donc c'est l'huître en fait qui est sur nos côtes depuis très longtemps. D'ailleurs, en fait, en travaillant, c'est vrai que j'ai commencé par la préhistoire, je travaille sur des sites qui datent parfois d'il y a plus de 8000 ans. Je ne travaille pas sur des sites plus anciens. Pourquoi? Parce que je travaille bien sur des coquilles archéologiques, je ne travaille pas sur des fossiles, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille sur à partir des plus anciennes, les plus anciens indices de consommation de coquillages qu'on ait. Il faut savoir qu'en fait, par le passé, le trait de côte a énormément varié. Il a été parfois très loin, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sites qui sont sous l'eau. Donc, je travaille sur des coquilles qui datent d'à partir de 8000 ans. Et ce qu'on a ici, c'est une huître en fait qui était présente sur nos côtes et qui est encore présente, mais en petit nombre. C'est l'huître plate de nos côtes. Alors, pour la reconnaître, là, si vous allez sur le marché et qu'on veut vous vendre de l'huître plate vraiment de la région, le petit indice pour le vérifier, c'est la présence de ces petites dents au niveau de la charnière. En sachant que l'huître japonaise et l'huître portugaise, ce sont des importations qui sont liées à l'homme et qui arrivent bien plus tardivement, donc à partir du 19e siècle. Donc si vous avez un archéologue qui vous détermine une coquille qui n'est pas une huître plate pour des périodes anciennes, c'est qu'il y a eu un problème. Parfois, certains archéologues s'amusent à consommer des coquillages pour un peu troubler l'étude, mais bon, ça, on arrive à le voir facilement. Alors, je vous y ai mis également une palourde européenne. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui pêchent. Non ? Voilà. Parce qu'en fait, la palourde européenne, c'est pareil. En fait, c'est la palourde qui est présente sur nos côtes depuis donc plusieurs milliers d'années. Mais c'est une palourde qu'on trouve de moins en moins parce qu'actuellement, en fait, celle que vous allez manger, c'est souvent la palourde japonaise qui est issue d'élevage. On a également la moule, la coque. Et en fait, ces quatre espèces, par exemple, sont des espèces qui vont être commercialisées, qu'on retrouve à l'intérieur des terres. Mais pas forcément les autres. Les autres, en fait, ce sont des coquilles qui sont également consommées au Moyen-Âge, mais qui vont l'être par des populations côtières. Donc on voit déjà, on peut voir une différence entre les coquilles consommées par des populations locales qui ont une relation avec l'environnement au quotidien, et d'autres populations qui vont donc aller acheter des coquillages. Alors je vous ai mis ici la bernique, la patelle, la flie. Donc il faut savoir que c'est une espèce qui peut encore être consommée actuellement, qui a été consommée sur nos côtes tout au long de la chronologie et en très très grande quantité. On a également la scrobiculaire. Alors là encore, ça peut également être appelé l'avignon ou l'avagnon. Et c'est également une coquille qui a été consommée en très grande quantité sur nos côtes. Je vous ai mis aussi le bigordeau et la mododonte. Alors ce qui est amusant, en fait, c'est que par exemple, la patelle et le lavignon sont quasiment plus consommés actuellement. Eh bien, apparemment, ce serait lié au fait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont été obligés d'en manger. Ça a été une obligation qui fait que, à la fin de la guerre, les gens ont boudé la consommation de ces espèces. Alors par contre, dans d'autres pays comme au Portugal, hein, vous pouvez aller dans des restaurants, vous allez avoir une présentation de ces coquillages à l'accueil qui sont pour eux, qui restent des coquillages nobles et qui ont un statut totalement différent. Et puis également, ce qui est intéressant, c'est cette mododonte. Ça, c'est un coquillage, en fait, pour les gens qui vont parfois à la pêche à pied, en fait, qu'on nous interdit de ramasser quand on est petit parce qu'il serait toxique. En fait, il n'est pas toxique. Il a le même régime alimentaire que le bigorneau. Donc, ça veut dire que comme il mange la même chose, il intègre les éléments de la même façon. Et c'est tout simplement... Alors, c'est un coquillage qui peut disparaître quand on a des très grands froids. Il peut disparaître pendant 10 et 20 ans. Et là, on recherche les indices en archéologie pour savoir si, finalement, on n'aurait pas arrêté d'exploiter ce coquillage, tout simplement parce qu'il a disparu du territoire pendant plusieurs années et on a arrêté sa consommation. Donc tout ça pour vous dire que quand on travaille en archéologie, il ne faut pas forcément interroger les gens pour savoir ce qu'ils mangent, pour savoir ce qui a été mangé par le passé, parce qu'on peut avoir une évolution des goûts et des pratiques alimentaires. Alors, je vais vous présenter juste rapidement un petit exemple sur le site de l'église à Saint-Vivien où en fait on avait une consommation sans doute liée donc à des moines. C'est un site qui a été étudié dans le cadre d'un programme sur lequel en fait Cécile était très proche. Donc on s'est connus en fait au cours de ce programme-là. Et on a plus de 20 espèces qui ont été déterminées sur ce site-là. Cependant, en fait, c'est pas parce qu'on va retrouver 20 espèces. Donc c'est un site, si vous avez bien regardé, qui est très proche de la côte. Et en tant qu'archéologue, donc on va prendre le sédiment, on va tamiser, puis on va compter tous les coquillages qu'il y a à l'intérieur, et puis on va les déterminer. Mais nous, ça ne nous suffit pas, en fait, parce que derrière ça, en fait, on veut savoir quels sont les coquillages qui ont réellement été exploités par l'homme et consommés. Et quand on fait le tri, donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vous présente uniquement deux fosses qui ont été pour l'instant étudiées à Saint-Vivien. On voit qu'en fait, parmi toutes ces espèces, il y en a quelques-unes seulement qui ont été consommées. Donc on va retrouver notre huître plate, notre moule, la palourde, et également on va retrouver ici de la patelle et du pétoncle. En tant qu'archéologue, la question qu'on veut savoir, c'est d'accord, et les archéologues en fait veulent toujours des preuves, hein, les gens ont ramassé les coquillages sur le site, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils les ont vraiment mangés ? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? on va tous les mesurer. Donc comme on fait un tamisage avec des mailles très fines, hein, de 2 mm, on va pouvoir voir s'il y a une sélection de la taille des coquillages qui pourrait démontrer d'une consommation alimentaire. Et là, c'est ce qu'on voit ici avec donc, des moules et puis des pétons qui ont des tailles, ici par exemple, supérieures à 2 cm. Alors, encore là pour les pêcheurs ou les amis de pêcheurs, si vous allez à la pêche et si vous vous amusez à mesurer vos coquillages, vous allez vous apercevoir que l'œil humain, en général, retient les coquillages qui sont supérieurs à 2 cm. Et c'est quelque chose qui est assez amusant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve en archéologie tout au long de la chronologie, de la préhistoire jusqu'à nos jours. On retrouve en fait souvent cette gamme au-dessus de 2 cm. Quand on a des coquilles qui sont retrouvées, c'est souvent en fait lié à des modes alimentaires. On va voir tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres coquilles qui sont plus petites et qui finalement ont bien été transportées par l'homme, mais qui ne sont pas en fait des rejets alimentaires. Alors derrière le coquillage, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où l'homme a exploité ses coquillages. Donc derrière chaque coquillage, en fait, nous, ça nous évoque un environnement. Donc derrière l'huître, par exemple, on aura un environnement rocheux. Puis ce qu'on veut savoir aussi, bah pour les périodes historiques, c'est comment ont été ramassés ces coquillages. Alors je vais vous montrer un exemple plus démonstratif après, mais là déjà, en fait, comment est-ce qu'on travaille? Bah, si vous voulez aller vous faire une pêche à pied, vous allez commencer par prendre les coefficients de marée et vous allez regarder les horaires pour savoir quand la marée est basse. Eh ben, finalement, en fait, au Moyen-Âge, ils faisaient un peu la même chose. Ils attendaient que l'eau descende pour aller pêcher les coquillages. Donc là, c'est ce qu'on voit à Saint-Vivien. Ici, ce que vous avez, en fait, c'est une coupe de la plage. Quand vous allez vous baigner, vous allez souvent là. À marée basse, vous pouvez aller ici. Et puis ici, c'est la zone qui est constamment immergée qu'on a ici. Alors, il peut arriver actuellement qu'on ait une consommation sur le marché de coquilles qui viennent de la zone subtidale, hein, de la zone qui est constamment immergée. Ça va être une zone qui est actuellement accessible par des méthodes de dragage. Mais ce qu'on voit en fait ici à Saint-Vivien, c'est que tous les coquillages qu'on a ici peuvent être collectés quasiment tous les jours. Donc ce sont par exemple ici la patelle, la moule, l'huître et la palourde, alors qu'on va voir le péton qui va être accessible uniquement lors de très grands coefficients de marée. Donc nous, ça nous donne un indice sur la façon dont ont été exploités ces coquillages. Donc là, je voulais vous présenter un cas assez exceptionnel de site archéologique sur lequel j'ai travaillé. Alors malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de fouilles sur ces sites-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un site archéologique qui est composé quasiment exclusivement de coquillages. Et comme je vous l'ai dit juste avant, le problème, en fait, enfin, l'inconvénient et le problème, c'est qu'on travaille sur des coquillages qui existent depuis plus de 8000 ans. C'est-à-dire que si on n'a que des coquillages sur un site archéologique, je suis incapable de le dater. Donc en fait, j'ai besoin de mes amis et collègues archéologues pour savoir quel est le mobilier associé pour pouvoir dater mes assemblages. Donc c'est la raison en fait pour laquelle peu de sites du type que je vais vous présenter ont été étudiés. Pourtant, il en existe pas mal et on va voir que c'est une activité qui ne ressemble à rien, qu'on ne voit pas, mais qui semble avoir une importance majeure. Alors là, je vous ai mis des exemples en fait des très très récents des sites de Cancale et de Granville. Ce sont des accumulations de coquilles d'huîtres qui peuvent faire plus de 300 mètres de long, qui peuvent faire plus de 2 à 3 mètres de haut. En fait, c'est des exploitations d'huîtres. Donc les hommes arrivaient, les hommes et les femmes prenaient le bateau, allaient sur des îlots pêcher l'huître, les ramenaient sur la plage, les déchargeaient et les huîtres étaient directement ouvertes sur la plage pour en extraire la chair. Et là, on va s'intéresser à des sites archéologiques que sont Saint-Michel-en-Lerme, ici, la flèche n'est pas très visible, et Beauvoir-sur-Mer, ici. J'appuie, hein, mais c'est parce qu'en fait, il y a trop de lumière. je peux m'aider de ça, voilà. Mais ça va bouger beaucoup. Vous avez ici Saint-Michel-en-Lerme et Beauvoir-sur-Mer. Alors, le site de Saint-Michel-en-Lerme, en fait, c'est un site qui a défrayé la chronique. Hein. Si vous voulez vous intéresser au site de Saint-Michel-en-Lerme, vous allez pouvoir avoir accès à plus de 50 articles où les scientifiques se sont bataillés. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une accumulation. Donc, j'ai une petite photo d'une accumulation de coquilles d'huîtres. On a 3 buttes d'huîtres qui étaient présentes à Saint-Michel-en-Lerme. Et alors, il y a eu une grosse bataille parce que ça a été étudié par des géologues avant que les archéologues arrivent sur ces sites. Et en fait, on a des huîtres qui sont valves jointes présentes dans cette accumulation. Du coup, des huîtres valves jointes, c'est naturellement une accumulation naturelle. eh bien, on va voir que c'est pas si évident que ça. Alors malheureusement, les buttes de Saint-Michel-en-l'Herbe n'ont pas été protégées. Donc elles ont été exploitées là, comme vous pouvez le voir, donc entre 1924 et 1964. Donc on utilisait le calcaire pour amender les sols, pour également faire de la chaux et pour construire des routes. Et puis à l'époque, en fait, les chercheurs avaient évalué cette masse de coquilles à plus de 200 000 et 600 000 mètres cubes. Donc c'est quand même assez énorme. Moi, ce que je vais vous présenter, alors je vous ai mis une photo de ce qui est actuellement. Il y a une seule butte qui est conservée. Pourquoi elle est conservée? Parce que par miracle, il y a une ferme qui s'est construite sur une de ces buttes. Donc pour ne pas détruire la ferme, on n'a pas détruit la butte. Donc là, il y a des négociations en cours avec le département de Vendée pour essayer de classer, au moins de faire connaître ce patrimoine qui est un peu en danger. Et moi, j'ai étudié en fait un site qui est exactement la même chose que le site de Saint-Michel-en-Lerme. C'est le site de Beauvoir-sur-Mer. C'est la même chose, sauf que ça ne se voit pas. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la Vendée et qui sont au moins déjà allés à l'île de Noirmoutier par le biais du Gouas, hein, qui ont vu cela, vous avez ici le site de Beauvoir-sur-Mer. Alors, Beauvoir-sur-Mer est construit sur une accumulation d'huîtres. Donc, cette accumulation fait donc plus de 160 mètres de long, plus de 20 à 25 mètres de large et entre 1 et 2 mètres de haut. Ce qui se passe en fait à Beauvoir-sur-Mer, c'est qu'on a eu une sédimentation d'argile. Hein, c'était une composante de la baie de Bourgneuf. Pour ceux qui se sont même aventurés dans la baie de Bourgneuf, ils ont pu s'apercevoir en fait que c'est en fait une énorme vasière. Et en fait, cette accumulation d'huîtres s'est peu à peu tassée. Avec la remontée du niveau de la mer, on a une sédimentation supplémentaire. Et finalement, cette accumulation dont je vais vous parler, elle est présente sous le bourg de Beauvoir-sur-Mer. Mais parfois, en fait, les habitants s'amusent à faire des trous à Beauvoir-sur-Mer. Donc là, c'est le cas en 2007, où on est allé tout de suite voir, nous, le service régional d'archéologie, parce qu'en fait, il y a un habitant qui avait décidé d'enfouir des gravats discrètement. Sauf qu'en fait, en faisant un trou, bah, il a éventré cette accumulation énorme d'huîtres. Donc moi, j'ai eu de la chance parce qu'en 1986, il y a un archéologue qui avait décidé de prélever des huîtres dans cette accumulation. Et dans les années 2000, j'ai pu les étudier. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En sachant que moi, mon but, c'est de savoir si ces huîtres ont réellement été exploitées. Si oui, où est-ce qu'elles ont été exploitées, comment elles ont été exploitées et pourquoi. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer en vous présentant les méthodes que nous appliquons au laboratoire d'archéosciences de Rennes. Alors déjà, en fait, on a plusieurs kilos de coquilles qui ont été étudiées, hein, plus de 65 kilos. Donc moi, j'étais très contente parce que vous allez voir, en fait, l'archéologue est souvent sceptique. On est toujours obligé de lui démontrer quand on a un élément que c'est réel. Donc souvent, les statistiques nous aident quand même un petit peu. Donc on aime bien avoir des petits pourcentages et beaucoup de matériel pour pouvoir prouver des observations. Donc on retrouve ces petites dents en fait sur l'huître plate. Donc déjà c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est bien l'huître de nos côtes, donc qui s'appelle Ostrea edulis. Donc l'archéologue à l'époque, donc qui savait pas du tout que ces coquilles allaient être étudiées un jour, avait choisi une très bonne option. Il avait décidé de ramasser avec ses petites mains les huîtres sans les nettoyer, et il avait laissé les valves qui étaient ensemble, il les avait laissées jointes. Donc moi, ce que j'ai fait, donc plus de presque 20 ans plus tard, donc je suis retournée chercher ces coquilles. Moi, c'était vraiment un plaisir pour moi. J'ai pris des refus des tamis et je les ai nettoyés pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on voit en fait que finalement, on a un petit peu d'autres coquilles que de l'huître associée à l'assemblage, mais c'est en très faible proportion. On a plus de 99% des huîtres en fait qui sont, enfin de cette accumulation qui sont des huîtres, et tous ces petits coquillages qui étaient présents dans l'accumulation semblent être plutôt des coquilles qui étaient piégées dans cette masse d'huîtres. Mais en étudiant ce lot, j'ai eu une première interrogation, c'est la présence de ces huîtres qui présentent des perforations. Alors pourquoi je me suis intéressée à ces huîtres? Parce qu'en fait, les huîtres sont composées d'une valve plate, qui est la valve droite, et la valve gauche, qui est la valve creuse. Et en fait, quand vous avez un petit naissin, une petite larve qui arrive sur son petit rocher, elle va fusionner, elle va créer un petit ciment entre sa valve creuse et le substrat. Ça veut dire que vous, quand vous allez à la pêche à pied, qu'est-ce que vous voyez en premier ? C'est la valve droite. Or, ici, ce sont les valves droites qui ont été majoritairement percées, à l'exception d'une. Là, c'est une huître qui a été totalement transpercée. Vous avez ici la valve plate, donc la valve droite, et la valve gauche, la valve creuse qui avait fusionné avec l'élément. Ça veut dire qu'ici, on a sans doute des indices concernant l'outil qui a été utilisé pour extraire les huîtres de son environnement naturel. Alors, je suis tout de suite allée voir l'archéologue en lui disant, bon, tu as prélevé à la main, est-ce que c'est sûr ? Il m'a dit oui, il m'a attesté sur l'honneur que ce n'était pas des coups de piochon que j'avais ici. Donc je l'ai cru et j'ai essayé de voir en fait si on pouvait définir le type d'outil qui avait été utilisé pour extraire ces huîtres de l'environnement. Alors j'avais remarqué en fait que les petites perforations avaient une forme plutôt arrondie alors que les grandes perforations avaient des formes plutôt quadrangulaires. Donc j'ai essayé de voir s'il y avait une relation entre la forme de la perforation et le côté quadrangulaire de la perforation. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Alors malheureusement, j'ai pas assez de coquilles pour le prouver statistiquement. Alors on voit bien en tout cas que ici vous avez la taille des perforations. Donc j'ai pris les plus grandes longueurs à chaque fois. Et on voit en fait que, les petites perforations ont des plus petites tailles que les perforations, les petites perforations circulaires. Donc ont des gammes de taille inférieures aux perforations quadrangulaires. Alors je me suis dit, c'est bon, j'ai la réponse, ils ont utilisé un piochon. Parfois ils ont cogné doucement donc sur l'huître, donc ils ont fait des petits trous, et puis quand ils sont allés un peu plus fortement sur l'outil, ils ont fait des gros trous qui ont une forme quadrangulaire. Malheureusement, ça ne marche pas, parce que quand on regarde les impacts qu'il y a sur l'huître, on a à la fois des impacts qui sont circulaires et des impacts quadrangulaires. Donc on a sans doute plusieurs outils qui ont servi à extraire ces huîtres de l'environnement. Alors ces huîtres, alors je cherche un petit pourcentage, on a sur plus de 3000 valves d'huîtres qui ont été étudiées, on en a seulement une vingtaine qui ont ces impacts. Donc nous, ça nous donne une information. Vous avez plusieurs façons de pêcher l'huître. Soit vous allez sur les rochers et vous essayez de les enlever une à une, ou soit vous utilisez une manière un peu plus, un peu moins agressive qui va être le ratissage. Et là, le taux de pourcentage tendrait à montrer plutôt l'utilisation d'un ratissage. Alors j'ai essayé de regarder parmi les outils qui sont utilisés, quels sont éventuellement ceux qui auraient pu servir à extraire l'huître de son environnement. Donc on a l'utilisation de dragues à l'époque, qui pourraient être des outils comme ça, qui sont finalement des râteaux associés à des filets. Également, en fait, vous pouvez avoir des dragues un peu plus un peu plus sophistiquées, avec un entourage en fer. On a également l'utilisation de râteaux allongés. Et puis là, on pourrait également avoir l'utilisation de petits râteaux sur la grève. En tout cas, ça semble être plutôt un ratissage des coquilles d'huîtres qu'on a ici. Mais alors, l'enquête, en fait, c'est presque une enquête policière. Ces huîtres, en fait, on voit cette grande accumulation. Et ce qu'on voulait savoir, c'est comment ont-elles été sélectionnées ? Parce que, comme je vous l'ai dit, si c'est une population qui est assez riche, qui va chercher ces coquillages, qui va les payer, vous allez avoir un beau calibrage avec des grandes huîtres qui sont sélectionnées pour leurs dimensions. Et souvent, on a un gabarit, un calibre qui se retrouve. Ici, donc, on a mesuré les huîtres et qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait ici vous avez la taille en millimètres, ça veut dire qu'ici vous avez moins de 2 cm. On a en fait je vous ai mis les valves droites et les valves gauches, faut pas avoir peur, c'est juste qu'il y a une des deux valves qui est plus petite que l'autre. Mais bon, en fait ce qu'on voit ici c'est que petites et grandes huîtres ont été sélectionnées. On voit qu'il n'y a pas finalement d'une sélection du calibre de l'huître. J'ai essayé de voir ensuite si, on ramasse des huîtres qui sont entières. Donc j'ai essayé de voir si les huîtres qui étaient valves jointes avaient les mêmes gabarits. Eh bien oui. En fait, on retrouve sur les valves qui sont jointes à l'intérieur de l'accumulation à la fois des petites et des grandes huîtres. Donc là, ça nous apporte une première information, c'est que donc, les huîtres de Beauvoir-sur-Mer ont été exploitées, petites et grandes ont été ramassées sur le site et sans doute vivantes. Pour savoir en fait comment ont été pêchées ces huîtres, on a la chance en fait que l'huître se fusionne avec la zone là où elle se fixe. Elle forme un ciment et elle fusionne. Et souvent, quand on extrait une huître, quand on va à la pêche, même vous, si vous y allez, si ce sont des huîtres bien sauvages, vous pouvez parfois ramener quelques morceaux de rocher. Et nous, les archéologues, on adore ça parce que ça nous permet de savoir à quoi étaient accrochées les huîtres. Qu'est-ce qu'on voit sur les huîtres de Beauvoir-sur-Mer ? On voit que beaucoup d'huîtres étaient associées à d'autres huîtres. Alors, Ici, un exemple plus démonstratif, vous avez ici une grande huître sur lesquelles se sont fixées plein de petites huîtres. Également ici, et même, alors c'est comme, un peu comme dans les Kinder Surprise, à l'intérieur des huîtres, on a même des indices de faune qui montrent que certaines des huîtres de l'accumulation de Beauvoir-sur-Mer sont des huîtres qui sont mortes et donc qui ont été ramassées sur le site, ramenées sur le site. Alors là, c'est un peu stupéfiant. Comment, pourquoi des huîtres mortes auraient-elles été ramassées à Beauvoir-sur-Mer ? Il va falloir attendre une ou deux diapos pour savoir pourquoi. Voilà. Alors là, en tout cas, ce qu'on voit, quand on cumule tous les indices de présence d'huîtres, on voit que plus de 50% des huîtres ont vécu en se fixant à une autre huître. Donc là, on sait que l'exploitation de ces huîtres est une exploitation d'une huîtrière sans doute naturelle. Et puis, donc également, on avait des huîtres valves jointes. Ben, quelques rares exemples, hein, on a moins de 1% d'huîtres qui étaient valves jointes, qui étaient en fait finalement valves jointes mais mortes. C'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées piégées dans ces huîtrières. Elles ont été piégées, d'autres huîtres sont venues et ont bloqué et ont laissé fermer ces huîtres. Et puis, en fait, la discipline et ce sur quoi, donc demain, on va faire une petite marée pour travailler sur cette problématique avec donc les deux étudiants qui sont ici, les deux doctorantes. En fait, quand on travaille sur l'huître, on s'intéresse à toutes les petites bêtes qui sont dans leurs environnements. Pourquoi ? Parce que derrière chaque organisme marin se cache une diversité d'environnements. Et plus on a d'informations sur les organismes qui vont être associés aux huîtres, mieux on va pouvoir décrire leur environnement, leur milieu de vie. Parce qu'en fait, une huître, ça peut vivre dans une zone envasée ou dans une zone un peu plus battue. Et ben, on a plein de petits organismes en fait, dans l'environnement de l'huître qui nous permettent d'avoir des informations à ce sujet. Alors, vous avez par exemple ici un ver marin qui va construire son petit squelette donc, à l'aide d'un tube calcaire. On en a un autre qui va avoir une forme différente. Donc, en fait, en fonction de la forme et du gabarit du tube, on arrive à savoir quelle espèce de ver, on a affaire. Également ici, je vais juste vous présenter deux exemples qui nous ont permis d'avoir des informations à Beauvoir-sur-Mer. C'est l'exemple d'un ver qui creuse en fait ici ses galeries à l'intérieur de la coquille de l'huître. Et en fait, quand on a des taux très très importants, ça peut nous indiquer une exploitation dans une vasière. Ici, on en a un petit pourcentage qui nous montre en fait que la côte exploitée est une côte abritée. Également ici, vous avez plein de petites perforations que vous pouvez déceler ici, petites et grandes. Ça va être une éponge marine qui va laisser ses traces. C'est une éponge marine en fait, qui vit sous le niveau de la mer dans la zone subtidale. Ici, on en a uniquement 4% qui sont représentés à Beauvoir-sur-Mer. Ça nous montre en fait, que finalement, la plupart des huîtres qui ont été exploitées à Beauvoir-sur-Mer, ce n'est pas du dragage. Ça va être une exploitation sur estran, donc sur la zone qui va se découvrir à chaque marée. Et on a quelques huîtres qui présentent la présence de cette éponge. C'est sans doute des huîtres qui ont été pêchées lors de très grands coefficients de marée. En tout cas, sur l'ensemble, ça nous montre une pêche d'estran. Donc là, les gens qui ont exploité les huîtres de Beauvoir-sur-Mer n'ont pas mis les pieds dans l'eau. Alors, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a des huîtres qui sont mortes à l'intérieur de cette accumulation, et est-ce que cette accumulation est réellement une accumulation anthropique, donc liée à une activité humaine ? Alors, je vais juste vous passer celle-là avant. On a vu tout à l'heure qu'on avait des huîtres, en fait, valves jointes. Et si on sélectionne uniquement les valves jointes ou si on mesure tous les gabarits d'huîtres, on a des petites ou grandes huîtres qui sont présentes dans cette accumulation avec des moyennes. Par exemple, si on prend la valve droite de 54 mm, hein, vous avez, que ce soit jointe ou pas, 54 mm et 60 mm pour les gauches, si ce sont des valves jointes. Et si, donc, ce que j'ai essayé de savoir, c'est toutes ces huîtres qui sont finalement transportées à Beauvoir-sur-Mer, elles sont transportées vivantes, mais est-ce qu'elles ont toutes été mangées ? Pour répondre à cette question, on a un indice, c'est que ces huîtres ont apparemment été ouvertes vivantes, et les personnes qui ont ouvert ces huîtres ont laissé des traces. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, vous avez ici le passage du couteau qui est visible. Et quand on mesure les huîtres qui présentent des traces de couteau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces huîtres ont des tailles plus importantes. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à Beauvoir-sur-Mer ? On a des gens qui exploitent donc, des huîtres qui sont sur l'estran. Ils vont ramasser en fait, finalement des blocs d'huîtres sans les sélectionner. Et une fois arrivés sur la terre ferme, ils vont ouvrir les huîtres, mais uniquement celles qui sont de gros gabarits. Alors, si vous ne voulez pas me croire concernant la présence de stigmates d'ouverture sur les huîtres qui sont valves jointes, je vous en ai présenté ici. Alors, je sais plus si c'est. Alors là, ici aussi, je vous ai montré, hein, pour que vous n'ayez pas trop peur si vous avez du mal à ouvrir les huîtres à Noël, que parfois aussi, au Moyen-Âge, on avait du mal à ouvrir les huîtres. Donc, vous avez ici des essais un petit peu ratés. Donc, nous, ça nous intéresse. Ça nous permet de savoir que c'est sans doute un couteau qui est pointé, qui est utilisé. Et puis, souvent, on a la largeur ici de l'encoche qui nous permet de montrer à Beauvoir-sur-Mer que les couteaux utilisés avaient sans doute en fait une largeur de 8 mm. Alors, bien sûr, en fait, l'archéologue va nous dire, oui, c'est sympa, Catherine, tu es gentille, il y a des huîtres ouvertes, mais combien en pourcentage? Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir le montrer? On utilise, en fait, des types de traces laissées par la lame métallique. Donc, ici, vous avez une huître entière, ici, vous avez un petit zoom qui va être fait sur cette zone, et puis, ici, vous avez parfois un impact à l'intérieur de la coquille, ici, parfois, un impact, comme on a vu tout à l'heure, avec qui est plutôt à pointer, parfois, on a des impacts arrondis. Alors ici, c'est la distribution des impacts à Beauvoir-sur-Mer. Et qu'est-ce qu'on voit? L'impact majoritaire est celui-là. Alors on voit aussi qu'il y a sans doute en fait des huîtres qui ont été ouvertes très rapidement et qui ne laissent pas de traces. Mais on voit quand même qu'il y a une grande proportion de ces huîtres de Beauvoir-sur-Mer qui ont été ouvertes. Alors également, au laboratoire, on s'amuse aussi à savoir par où elles ont été ouvertes. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans certains textes, apparemment, à certaines époques, il y a des modes, et à Paris, on n'ouvre pas les huîtres de la même façon qu'en Atlantique. Donc en fait, on essaye de systématiser ça au laboratoire, donc on essaye d'accumuler les données pour savoir finalement à long terme s'il y a vraiment des modes en fonction des régions. Mais pour ça, en fait, il faut vraiment accumuler les données. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que la discipline que je vous présente ici, c'est une discipline qui est très récente. En fait, les gens qui sont vraiment en poste sur ces disciplines, hein, ça fait que 5 ans que nous sommes en poste. Et puis l'archéozoologie en général, l'étude des animaux en archéologie, c'est une discipline quand même qui a été professionnalisée il y a que 50 ans. Donc en fait, il y a plein de développements méthodologiques que je vous présente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que les hommes de Beauvoir-sur-Mer ont attaqué l'huître par la zone qui est opposée au ligament. Alors c'est une zone qui est très proche ici de l'empreinte du muscle. Donc le muscle, c'est ce que vous sectionnez pour écarter les valves d'huître. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi, à Noël, je les ouvre souvent par le côté. Bah, ça peut être normal parce que les huîtres actuellement, si vous ouvrez une huître japonaise ou portugaise, elles n'ont pas forcément la même forme. Donc pour atteindre l'huître, ici, la méthode que je vous montre, ce n'est pas forcément la plus adaptée. Hein. Donc merci de ne pas l'utiliser parce qu'autrement, vous risquez de vous blesser. Alors, ces huîtres valves jointes, je vous en présente une ici. Donc, je les ai ouvertes pour bien vous montrer qu'elles ont bien été ouvertes. Donc, vous avez ici les stigmates d'ouverture de ces huîtres valves jointes. Alors, la question, en fait, qui doit vous tarauder l'esprit, c'est comment ces huîtres, si elles ont été ouvertes, se retrouvent-elles fermées sur ce site archéologique? Comment est-ce que c'est possible? Si vous composez un plateau de fruits de mer, souvent vous allez vous embêter à écarter les valves d'huître, les séparer pour présenter l'huître prête à consommer. Eh bien, en fait, ici, le muscle est sectionné pour ouvrir l'huître, et finalement, la chair est extraite très rapidement et l'huître va être rejetée. Et la partie qui maintient les deux valves jointives, hein, c'est un petit ligament, c'est ce qu'on a ici. Pour ceux qui mangent de l'huître, ça ressemble en fait à une petite cuticule de couleur marron transparent. Et en fait, cette cuticule, ce ligament maintient les deux valves jointes. Ce qui fait qu'en fait, vous allez ouvrir l'huître, enlever la chair. Ces valves d'huître sont jointes. Vous les rejetez en fait donc à la poubelle. Sous le poids des autres huîtres, elles vont se refermer. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup d'huîtres de Beauvoir-sur-Mer sont refermées. Alors, également, comment ces huîtres ont-elles pu arriver sous le bourg de Beauvoir-sur-Mer? Alors ici, vous avez le trait de côte actuel. Ici, la position la limite de l'extension en fait, de ce qui est appelé la chaussée aux huîtres. Donc, vous voyez ici une limite. Et puis, voici la forme en fait, de la chaussée aux huîtres qui est sous le village de Beauvoir-sur-Mer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que ça a une forme, en fait, je vais vous montrer après une diapo, qui montre en fait, que cette forme suit le littoral et semble parcourir en fait, la forme d'un étier, en fait, d'un ruisseau qui part de la mer. Et en fait, cette limite ici correspond sans doute au trait de côte tel qu'il était à l'époque. Parce qu'en fait, on est en bête Bourgneuf, on a une augmentation, en fait, une accrétion de vase progressif qui fait que peu à peu, le trait de côte s'éloigne du bourg de Beauvoir-sur-Mer. C'est ce qui se passe actuellement. C'est la raison pour laquelle, en fait, beaucoup de petits ports en Vendée ou en Charente-Maritime, en fait, sont peu à peu abandonnés parce que le trait de côte, parfois, disparaît, enfin, s'éloigne. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est que ça a la forme d'un étier et que c'était sans doute la limite du trait de côte à l'époque. Et en fait, on a imaginé avec des collègues la possibilité de transport de ces huîtres. Donc à marée basse, on va pêcher, enfin à marée basse, on va pêcher des huîtres. Ensuite, on va les mettre dans un bateau. Donc il faut imaginer un étier qui parcourt la vase, hein, comme on peut l'avoir actuellement pour ceux qui vont voir des ostréiculteurs. On est toujours impressionné. On voit une masse de vase. On se dit comment est-ce qu'il passe? Il y a toujours des petits passages à l'intérieur de cette vase. Et apparemment, ils auraient transporté ces huîtres par bateau. Ils les auraient rejetées sur les deux rives. Et ensuite, des personnes auraient décoquillé ces huîtres de manière très rapide et intensive. Alors, les buttes de Saint-Michel-en-Lerme, à l'origine, elles étaient trois. Et en fait, à Saint-Michel-en-Lerme, bah, c'est la même chose. En fait, on a ces formes de buttes qui semblent en fait suivre le parcours en fait d'un étier. Alors, vous avez ici l'île de Noirmoutier, le bourg donc de Beauvoir-sur-Mer, et vous avez ici plein de petits bras en fait, et on voit que le site de Beauvoir-sur-Mer suit des prolongations de ces cours d'eau. Donc apparemment, on a un transport par bateau. Alors, la question, en fait, en tant qu'archéologue, qu'on se pose, c'est finalement cette activité, est-ce qu'elle était viable à long terme? Bah, apparemment, quand même, c'est quand même pas une activité qui semble très 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 sympathique en fait pour les accumulations d'huîtres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que les petites huîtres ont été ramassées et ramenées vivantes sur le site et qu'elles ont été rejetées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le soin d'enlever les petites huîtres et de les remettre à la mer. Donc, pour une gestion du stock, c'est quand même assez dramatique. Également, on a vu en fait qu'il y avait plein d'huîtres qui sont mortes, qui ont été ramenées sur le site et qui n'ont pas non plus été rejetées à la mer. En fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que dans la dynamique de l'évolution d'un banc naturel d'huîtres, c'est que toutes ces vieilles huîtres qui ne sont pas rejetées à la mer, c'est autant de zones d'accroche en moins qu'il y a pour les huîtres qui vont venir. Alors, ça, c'est une activité quand même qui semble avoir duré assez longtemps. Et dans les textes, en fait, les gens commencent à s'interroger sur la disparition des huîtres uniquement à partir des 18e et 19e siècles. Avant, il n'y a apparemment pas d'alerte majeure. Mais quand on va commencer à avoir des lois qui vont intervenir, on va demander aux gens d'ouvrir les huîtres, mais de rejeter toutes les coquilles, en fait, même celles qui ont été ouvertes, à la mer. Donc, ce qui permet de renouveler, de laisser la dynamique du fonctionnement du banc naturel. Puis alors, une autre question que vous devez vous poser, parce que finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un site où les gens se sont amusés à enlever les huîtres et à les décoquiller, et c'est des masses énormes. Mais en fait, ils ne les ont pas mangées apparemment eux-mêmes. Alors la question que vous devez vous poser, c'est qu'est devenue la chair? Alors ça pourrait être des concours hein, d'ouverture des huîtres, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il faut savoir, dans les textes, on a des mentions qui montrent en fait qu'une huître qui est sans sa coquille peut rester vivante quand il ne fait pas trop trop chaud, pendant plus d'une semaine déjà. Donc on a des exemples qui le montrent, et puis on a même des descriptions comme ça de voitures à cheval qui vont très rapidement transporter la ressource plutôt loin du littoral. Également, il y a des possibilités de préparer l'huître, de la mettre dans du sel, et là on peut la consommer plus tard. Également, il peut y avoir également des conserves. En sachant qu'en fait, au Moyen Âge, certaines populations aimaient bien consommer des coquillages plutôt cuits, et donc il y a des descriptions également de préparation de soupe avec les coquillages. Hein. C'était un peu le bolino de l'époque. Hein. On réhydratait l'huître à l'intérieur des terres pour la consommer. Donc là, c'est vraiment. Alors malheureusement, je travaille sur les coquillages. Et mon problème, c'est que bah, une fois que j'ai plus la coquille, une fois que la chair de l'huître est partie du site archéologique, je ne peux plus rien vous dire. Donc bah, là, j'attends mes collègues historiens hein, pour des sites datés entre le 10e et... Oui, j'ai oublié de dire. Ce sont des activités qui ont apparemment existé pendant le 10e et le 13e siècle. Donc c'est vrai que pour l'instant, moi, je n'ai pas eu d'informations auprès de personnes qui étudient des textes sur cette activité. Et j'aurais vraiment aimé en avoir. Parce que ce qu'il faut voir, c'est quand même un lieu où on va exploiter des masses. D'huîtres. Actuellement, c'est des petits villages, hein, des petits ports qui sont peu à peu en train de disparaître. Et puis, on imagine très bien des centres d'échange à l'époque, en sachant qu'on a souvent en fait une association de ces exploitations d'huîtres avec l'exploitation du sel. Alors là, donc je viens de vous montrer que des coquillages peuvent être sélectionnés par leur taille pour être consommés, mais parfois l'archéologue a des surprises. Alors parfois il va trouver des tout petits coquillages. Alors là je vous ai mis un petit histogramme où on a compté 60 coquilles qu'on a mesurées, puis on voit qu'on a retrouvé des coquilles qui sont inférieures à 2 cm. En général, quand on se dit ça, on se dit oh là là, s'ils ont mangé ça, c'est qu'ils vraiment ils avaient un gros problème, ils n'avaient plus que ça à manger. Et puis en fait, on sait où habite, quel est le biotope, quel est l'environnement, le substrat même dans lequel ces coquillages habitent. Et là, on sait en fait que ce petit coquillage adore les algues. En fait, grâce à ce type de coquilles, donc là c'est une concentration qu'on a retrouvée dans une fosse du Moyen-Âge, hein, une des poubelles, et ça montre en fait qu'on a sans doute un apport d'algues sur ce site. Alors vous allez me dire, à quoi ça peut servir l'algue ? Alors pour les pêcheurs professionnels que vous êtes, certains parfois peuvent ramasser des algues pour laisser la pêche au frais, donc là c'est une possibilité. Également, il faut savoir que les algues, ça peut servir aussi d'aliments, hein. Il y a beaucoup d'algues qui sont comestibles, il y en a certaines qui peuvent être données en petite dose à des animaux, et également ça a servi il y a encore pas très longtemps à faire de la soude, et puis ça a pu servir également pour confectionner des oreillers. Donc il y a plein d'activités qui pourraient être liées à l'exploitation de ces algues. Alors également, donc là c'est un cas d'un site étudié à La Rochelle, donc je travaille sur les poubelles et toutes les zones démantelées, tous les déblais. Et bien parfois en fait on arrive on trouve des coquillages mais qui sont liés à une masse de déchets, et puis là en fait ce sont des coquillages qui sont arrivés sur le site par le biais du sable coquillé. Quand vous faites des constructions de maisons, même des routes, hein, si vous vous amusez à regarder en fait quand ils mettent du sable sur les routes, parfois il y a plein de coquillages qui sont très très gros. Là, par contre, on a retrouvé, en fait, c'est sans doute du sable coquillé qui a servi de ciment sur un site du Moyen-Âge de La Rochelle qui a été utilisé. Donc là, on arrive à montrer que c'est du sable coquillé parce que ça va être des coquilles de petite dimension qui ont des modifications de leur forme. Également, en fait, j'ai un collègue ichtyologue. Alors, l'ichtyologue, c'est celui qui travaille sur le poisson, qui était venu me voir. Il me dit, Catherine, j'ai un problème. Je travaille sur une accumulation, un dépotoir au château de Boves. J'ai pas de consommation de coquillages. Hein. Mon problème, c'est que j'ai des petits coquillages qui sont associés au dépotoir. Et en fait, ce qu'on a mis en évidence ici, c'est que quand on va pêcher un poisson, certains poissons mangent des coquillages. Et ce qui se retrouve dans le dépotoir, c'est en fait les estomacs de poissons, les contenus stomacaux qui sont retrouvés sur les sites archéologiques. Alors vous allez me demander comment est-ce que je peux le savoir. Alors déjà, ce sont des coquillages qui sont tout petits, hein, parfois inférieurs au centimètre. Ils sont cassés de manière très nette, hein, ce n'est pas des coquilles qui sont roulées par la mer. Et puis, ce qu'on fait, hein, comme j'ai la chance de travailler avec mon collègue en parallèle sur ce site, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il a comme poisson, lui, quels sont les environnements de ces poissons, puis j'essaie de regarder quels étaient aussi les régimes alimentaires des poissons. Et moi, j'ai regardé mes coquilles, mes coquillages, où est-ce qu'ils vivaient, dans quels environnements. Parfois, ça colle. En fait, on arrive à voir le régime alimentaire, c'est-à-dire que les poissons de mon collègue ont complètement écrasé mes coquilles. Mais bon, ça, c'est intéressant parce que pour mon collègue, ça lui permet de savoir si ces poissons ont été évidés, s'ils ont été préparés sur le site archéologique, en sachant qu'ici, c'est un site qui est assez éloigné quand même du trait de côte. Alors là, on a vu que les coquillages sont mangés, parfois ils sont transportés par hasard, et puis parfois ils ont une fonction un petit peu symbolique. Donc c'est le cas des coquilles de pèlerins. Et puis la coquille Saint-Jacques, finalement, c'est une coquille qui est très très prisée actuellement. Et puis malheureusement, en fait, on a des gros problèmes en fait en archéologie, parce qu'au Moyen-Âge, on n'en a quasiment pas. Ça c'est quelque chose qu'on avait présenté avec des collègues en Charente-Maritime, et puis on était tout penauds, hein, et à chaque fois les gens, la coquille Saint-Jacques c'est très bon, pourquoi ils ne la consomment pas? Alors c'est vrai que c'est une espèce qui vit assez bas dans les niveaux, hein, qui peut se pêcher, mais qui peut quand même se pêcher à marée basse, hein, quand on est expert. Et là, j'ai eu la réponse d'un historien qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit oui, mais moi, dans les textes, j'ai vu que la coquille Saint-Jacques, il s'amuse à l'ouvrir et à enlever la noix sur le bateau et qui rejette la coquille dans l'eau. Donc, voilà, moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai du mal à pouvoir prouver la consommation de la coquille Saint-Jacques, parce que, en fait, ils enlèvent en fait du poids, et donc, les coquilles, souvent, elles sont dissociées de la noix de Saint-Jacques. Mais par contre, en archéologie, on retrouve énormément de coquilles Saint-Jacques. Ce sont les coquilles associées au pèlerinage. Alors là, je vous ai mis une sépulture avec quelques coquilles. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé par Yves Gruel. Là, c'est ce que je vous présente. Je vous le présente parce que c'est assez intéressant. Vous avez ici une coquille Saint-Jacques d'un site et puis une coquille qui ressemblerait plutôt à une grosse coque qu'à une coquille Saint-Jacques. Or, en fait, c'est bien une coquille Saint-Jacques. Alors, comment est-ce qu'on peut le démontrer en archéologie? Alors voici des dessins réalisés par Yves Gruel, hein, c'est un travail qui a été publié. Et vous avez ici donc une coquille Saint-Jacques complète, bien entière, qui a été donc utilisée pour le pèlerinage. On a des perforations. Et ici vous avez le muscle, l'empreinte du muscle qui est bien visible ici. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette petite coquille Saint-Jacques? C'est que l'empreinte du muscle a été en partie recoupée. En fait, apparemment, il y a une taille de la coquille Saint-Jacques pour le pèlerinage à une certaine période. Alors là, j'aimerais bien que les historiens m'aident un petit peu. Parce que on n'a pas trop d'informations sur le pourquoi ça a été taillé, quand ça a été taillé. Là, c'était une étude un peu exploratoire qui avait été réalisée, mais on n'a pas d'informations supplémentaires. Alors, ce qui est assez amusant, donc là, ce qui est amusant, c'est que le pèlerinage, donc on en a, il est établi à partir du Xe siècle. Et puis à partir du XIIe siècle, on va avoir, en fait, l'homme va copier la coquille Saint-Jacques. Et va réaliser des enseignes métalliques. On utilise, en fait, on va réaliser des moules et on va copier les enseignes, donc les coquilles Saint-Jacques, en enseignes métalliques. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les enseignes métalliques, ce n'est pas une imitation de la coquille Saint-Jacques entière, mais c'est une imitation de la coquille taillée. Donc là, vous en avez une sur le chapeau, sur la cape et sur la besace. Alors, voilà, donc j'ai plein de questions sur ce type de matériel. Donc là, notre travail en archéologie, c'est d'essayer, dès qu'il y a des coquilles de ce type-là, de les étudier, de les caler chronologiquement pour essayer de voir, en fonction des modes, quand est-ce que ça apparaît et éventuellement où est-ce que ces coquilles ont été produites. Alors, je vais terminer par une autre activité qui est très peu connue, qui est l'utilisation des coquillages pour faire de la teinture. Alors, si vous cherchez des informations bibliographiques sur ça, si vous recherchez un petit peu dans les textes, vous allez avoir plein d'informations sur la Méditerranée avec des grosses coquilles qui sont utilisées pour faire de la teinture. Et puis finalement, je me suis incrustée petit à petit dans les chantiers de fouilles, et puis mince, j'ai trouvé des coquilles qui étaient cassées bizarrement, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. J'ai réalisé également une synthèse, et puis finalement, quelque chose qui apparaissait un petit peu un épiphénomène, quelque chose d'hasardeux, est devenu quelque chose en fait, d'assez majeur en fait, pour notre histoire. Alors ici, j'ai recensé tous les sites sur lesquels, en archéologie, on a trouvé des utilisations des coquillages comme colorant. Donc ce n'est pas la coquille qui est utilisée et qui est broyée pour faire de la poudre, hein, c'est une partie qui est vivante de l'animal, qui va être utilisée pour faire de la teinture. Alors ici, je vous ai mis les sites du Moyen-Âge, et puis j'ai pas pu m'empêcher quand même de mettre d'autres sites, ceux donc d'époque gallo-romaine, de la préhistoire. Puis pour certains, en fait, pour certains sites, on a une production de pourpre, mais on ne sait pas de quand ils sont datés. Alors, en général, quand on ne sait pas pourquoi, de quand ils sont datés, c'est tout simplement que c'est des sites qui sont connus par prospection. Le pourpre, en fait, il existe donc d'il y a moins de 10 000 ans, il y a moins de 8 000 ans jusqu'à nos jours. Et puis malheureusement, en fait, on ne peut pas dater ces sites parce qu'il n'y a pas eu de fouilles. Et parfois, c'est des sites qui sont composés uniquement de milliers de coquilles de pourpre agglutinées et cassées. Et du coup, on a du mal à avoir les autorisations de fouilles parce que ça porte pas d'intérêt au niveau des autres objets archéologiques. Et puis également, ce qui est intéressant sur cette chronologie, c'est que finalement, si vous intéressez au sujet, vous allez voir, les Romains arrivent et expliquent comment faire la production de pourpre. Donc peu à peu, ils vont faire passer les connaissances techniques sur la côte. Et en fait, plus je travaille en archéologie et plus je travaille sur ce type de site, et plus on s'aperçoit qu'on a peut-être une production bien avant l'arrivée des Romains, et on a des productions de pourpre qui seraient au moins dès la fin de l'âge du fer. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que des coquilles ont servi de colorant? Parce que déjà, on a deux espèces qui permettent de colorer on verra quoi tout à l'heure, de faire de la coloration. Donc c'est le pourpre et le murex. Alors le murex, il n'est pas consommé. Donc j'aurais dit ça il y a encore 3 semaines, sauf que là je suis en train de travailler sur un site préhistorique où ils se sont peut-être amusés à manger le murex. En tout cas, il n'est pas mangé du tout pendant l'Antiquité. Et le pourpre, en fait, c'est un coquillage qui est consommé même pendant l'Antiquité. Dans les textes, on a des indices d'exploitation du pourpre en tant qu'aliment. En tout cas, quand on trouve des pourpres et des murex en grande quantité, on a un premier indice de la possibilité de l'extraction de colorants. Et puis ces coquilles, en fait, elles vont, vous allez le voir, elles présentent des cassures systématiques. Et puis ces cassures ne sont pas localisées n'importe où. Alors, je vous ai mis quelques planches vous illustrant des coquilles du Moyen-Âge qui ont été sans doute utilisées pour faire du colorant. Donc vous voyez ici une cassure, donc ici un site de la Manche. Alors là, j'ai mis ça quand même parce que c'est vrai, comme on fait, on va du terrain au laboratoire. Je vous ai mis un décapage donc, qui a été fait, donc ce qu'on fait quand on travaille sur des lotissements ou des zones industrielles. Donc on va décaper la terre végétale et puis qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je travaille sur ces choses-là, en fait, ces accumulations de coquilles de pourpre qui sont présentes soit dans des fosses ou dans des fossés. Quand on fait un petit zoom, on voit bien qu'il y a des pourpres et qui sont cassés. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien nettoyé et bien tamisé. Également ici, je vous ai mis un autre exemple. Donc là, c'est un site qui a été fouillé l'année dernière par Marie-Laure Hervé de l'INRAP, où on a en fait ici, donc c'est une section de fossé, hein, le fossé se poursuit là, et puis on a une accumulation comme ça, ordonnée successive de coquillages. Et puis qu'est-ce qu'on voit ? On voit que là encore, on a du pourpre cassé. Et puis, une fois nettoyé, là, en effet, les pourpres sont cassés. Je vais vous présenter juste un exemple en fait de comment est-ce qu'on peut travailler sur ce type d'activité. Donc j'ai choisi en fait le site du Grand Essart, localisé à Jars-sur-Mer, dont on a des accumulations qui se prolongent jusqu'au Moyen-Âge. Alors, on va tamiser, on va identifier les espèces, on va les quantifier, on va les mesurer. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des coquilles qui sont mangées, hein, on a des calibrages bien nets, on a des grandes quantités de certains coquillages. Donc on a de la patelle, on retrouve notre scrobiculaire, hein, le lavignon qui vit dans la vase. On a notre huître, de la moule, de la coque, de la palourde. Et puis on retrouve en fait finalement celle que je vous ai montrée tout à l'heure, du bigorneau et de la monodonte qui ont été consommées. Et puis on va retrouver nos deux intrus ici, que sont le murex et le pourpre. Alors, on va essayer de voir dans quelle phase de la chronologie ces sites sont présents, ces coquilles sont présentes. Donc, on voit ici que le pourpre, alors là, c'est un site, et pour l'instant, c'est ce qu'on a pour le Moyen-Âge. Quand on a une production de pourpre, c'est souvent associé à des rejets alimentaires. Donc, vous imaginez, en fait, on fait des fouilles de fossés. Vous avez une couche de coquilles qui ont été mangées, une couche de pourpre. Et là, en fait, ça nous aide à avoir des informations sur l'activité. Et là, c'est une activité qui aurait apparemment duré du 5e au 8e donc, siècle. Et puis là, je vous présente juste sur un fossé. Quand on regarde vraiment certains cas particuliers, apparemment, l'extraction de pourpre a été une des activités majeures. Et puis là encore, quand on montre ça, l'archéologue va vous dire bah, « D'accord, il y en a qui sont cassés, mais est-ce que tu es sûr qu'il y en a vraiment beaucoup ?» Bon. Voilà la façon dont elles sont cassées. Donc on va avoir ici une cassure au niveau de la glande qui est présente ici. Donc là, en haut, c'est le murex. Donc le murex qui s'amuse à manger les huîtres, hein, pour la petite histoire. Et vous avez ici le pourpre également. Donc on dit le pourpre pour le coquillage et puis la pourpre pour la teinture. Et puis je me suis inspirée d'un travail de mon collègue Yves Gruet qui avait présenté ça donc, dans une revue où il avait montré comment est-ce qu'on pouvait voir que des pourpres ont été utilisés pour faire de la teinture. Donc il avait utilisé cette petite typologie. En fait, ça consiste à classer les petits fragments de coquilles en fonction de la façon dont ils sont cassés. Donc il avait présenté ça pour la teinture. Et puis il avait présenté ça aussi parce que le pourpre, pour la petite histoire, en préhistoire, c'est utilisé pour faire des petites perles circulaires, hein, des éléments de parure. Donc pour faire des éléments de parure, le pourpre, lui, est écrasé. Donc il avait mis en place deux typologies différentes. Puis moi, je trouvais que c'était un petit peu dommage de partir en fait, d'un a priori, c'est-à-dire qu'on était obligé de savoir, avant d'étudier les coquillages, quelle était l'activité pour utiliser l'une ou l'autre des classifications. L'histoire m'a donné raison parce que finalement, je vais vous montrer tout à l'heure, on peut avoir des sites avec extraction de pourpre qui ne montrent pas forcément le schéma que vous voyez en haut. Alors qu'est-ce que c'est fait ? J'ai fusionné cela et j'ai créé une autre typologie qui me permet en fait de travailler à l'aveugle. Donc là, ça permet à n'importe qui n'y connaît rien au pourpre, il classe ses petits fragments, puis à la fin, il regarde « Waouh, super, c'est de la pourpre !» Alors, vous avez ici des pourpres entières. Ici, vous avez une pourpre qui est cassée au niveau de la pointe de l'apex. Ça, c'est une cassure qui est naturelle. Hein. Si vous enfouissez des coquillages, des bigorneaux, vous allez vous apercevoir qu'elle se casse à ce niveau-là. Nous, ça nous permet de faire la différence entre des cassures qui sont liées à l'homme, donc des écrasements, des gestes brusques, ou des cassures qui sont liées plutôt à ce qu'on appelle la taphonomie en archéologie, hein, à l'action d'agents naturels dans la construction du site archéologique, qui vont modifier et casser les coquillages, mais de manière naturelle. Alors, on appliquait ça donc à Jarre-sur-Mer, et qu'est-ce qu'on voit donc sur le site du Grand Essart, on a en effet plus de 99,9% de pourpres qui ont été cassées. Donc là, l'archéologue a été obligé de nous croire. Il y a vraiment beaucoup de pourpres de cassées. Il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe à Jarre-sur-Mer. Alors, je vous ai résumé un petit peu ce qu'on peut, grâce à l'étude des coquilles, montrer donc au Grand Essart. En fait, on sait que le pourpre habite à un environnement, un biotope, qui est l'environnement rocheux. Donc, on a pu montrer, en fait, grâce en étudiant la gamme de taille des pourpres, que ces pourpres grands et petits ont été sélectionnés, pêchés sur le rocher. Il n'y a pas une sélection, hein, c'est un peu comme l'huître. C'est vraiment un ramassage rapide de tous les pourpres qu'il peut y avoir sur les rochers, petits et grands. On a un petit peu moins de murex en proportion, mais apparemment, c'est lié au fait que le murex habite un peu plus profondément dans la mer. Donc, les proportions entre ces deux espèces correspondent à leur proportion naturelle. Et puis, une fois arrivés sur le site, c'est comme à Beauvoir-sur-Mer, finalement, pour les huîtres. Les petits individus sont rejetés, ils sont encore vivants, mais ils sont mis dans la poubelle. On ne va pas les remettre à la mer. On va casser les coquilles, et pour casser les coquilles comme ça, on est obligé de les casser une à une. Et alors, le problème, c'est que si vous cassez une coquille une à une, si vous prenez une petite coquille, au bout d'un moment, c'est votre doigt qui va prendre en fait l'outil. Donc c'est plutôt votre doigt qui va donner de la couleur que la coquille. Et apparemment, c'est la raison pour laquelle ils ont exclu les petits individus. Alors là, on a fait une expérimentation justement avec mon collègue Yves Gruet qui montre en fait que on peut faire une cassure latérale avec une lame des pourpres qui donne exactement les mêmes fragments qu'au Grand Essart. Et puis récemment, j'ai travaillé sur un site donc qui est par contre plus ancien, hein, qui est un site vraiment focalisé sur cette activité, qui est le site de la Pouplinière, qui est daté du 3e siècle, où on a des écrasements de pourpres. Donc j'ai bien fait finalement d'utiliser les deux typologies que je vous ai montrées à un moment, parce qu'on peut avoir extraction de pourpre par écrasement. Alors là, je vous montre quelques photos juste pour que vous voyez qu'en effet, avec un écrasement, ça donne des petits morceaux comme ça. Et puis, si on casse le pourpre latéralement, on va avoir des choses comme ça. Alors, je vous montre quand même cette glande qui est tinctoriale, qui finalement est vraiment toute petite. Hein. Vous avez ici, c'est une coquille qui fait 1,5 cm, voire 2 cm grand maximum de haut. C'est une glande qui fait 1 mm de large et à peu près 5 mm de long. Il faut voir en fait que pour réaliser cette activité, et ce qu'on retrouve sur les sites archéologiques, c'est des milliers et des milliards de pourpres qui sont cassés, concassés pour faire de la teinture. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'ils ont après ensuite faire de la teinture? Malheureusement, moi, j'ai plus la coquille après. Alors il y a plein de textes qui montrent en fait qu'on peut faire des bains dans lesquels sont mêlées les coquilles et qui pourraient éventuellement des bains dans lesquels on pourrait utiliser des éléments à teindre. Également, donc on peut aussi préparer la glande dans du sel qui permettrait de transporter la partie colorante loin du littoral. Et la question aussi que vous devez vous poser, mais à quoi ça a servi? Alors ça a servi bien sûr à teindre les vêtements. Mais ça a également pu servir, donc on a de plus en plus d'indices de tatouages corporels. Ça a également servi aussi au Moyen-Âge, hein, dans les ouvrages, dans les enluminures, ça a aussi été utilisé pour l'encre. Donc il y a plein d'activités. Finalement, on méconnaît ce type d'activité. Il faut savoir que quelqu'un qui portait un vêtement de couleur pourpre, c'était vraiment réservé normalement dans les textes à des personnes bien privilégiées. Si quelqu'un qui n'avait pas le droit à le porter, il pouvait risquer sa vie. Donc il faut voir, en fait, là encore, c'est comme à Beauvoir-sur-Mer. On a parfois des sites qui ne ressemblent pas à grand-chose actuellement. Hein. Actuellement, c'est des lotissements. Et à l'époque, ça pouvait être des centres majeurs sur lesquels on pouvait avoir des plateformes de commerce et d'échange. Donc là, je vous ai quand même mis une petite expérimentation qu'on avait faite. Hein. On a poussé le vis jusqu'à écraser les pourpres. Alors malheureusement, le pourpre doit être positionné vivant pour donner de la couleur, ce qui est assez difficile. Vous avez ici, par exemple, là, l'éclatement des glandes qui sont jaunes. Et puis, on voit bien qu'avec la lumière et l'oxygénation, peu à peu, bah, on a une coloration qui se fait, en sachant que bah, c'est une coloration qui dure assez longtemps, qui est de plus ou moins rapide suivant l'ensoleillement. Plus il y aura de soleil, plus la coloration sera rapide. Et puis, il faut que le tissu reste humide pour que la coloration perdure. Voilà, bah, je vous remercie. J'espère que vous verrez les coquillages un peu d'une autre façon maintenant. Et puis, bah, si vous avez des questions, je pense qu'on a le temps pour quelques questions, donc n'ayez pas peur.
Une question. Beau sujet de recherche, en tout cas, vraiment passionnant.
Est-ce qu'on peut connaître l'origine du lieu d'élevage, enfin, où un coquillage a grandi par analyse chimique?
Ça, c'est un pan de la recherche qui est en plein développement. On essaye d'avoir des informations sur ça. Alors, il y a plein d'éléments chimiques, les terres rares, qui apparemment permettraient de connaître des informations sur l'origine des bassins versants. Et puis là, ce qu'on fait avec des collègues, justement, on essaye de ramasser de plus en plus des échantillons actuels pour avoir des informations sur les faunes associées. Parce que certaines de ces faunes associées, hein, de ces organismes qui se fixent sur les huîtres, vont avoir des aires de répartition localisées. Donc, on essaye de travailler sur ça. Pour l'instant, c'est des pistes de recherche. On essaye de développer les méthodologies. Également sur les formes de certaines coquilles, mais c'est vrai que c'est des questions auxquelles on essaye de répondre. Donc il y a des recherches là-dessus, mais pour l'instant on a du mal à avoir des résultats, c'est assez long. Mais oui, normalement à long terme on va pouvoir les définir.
Oui, un peu comme la composition d'une dent par exemple,
oui.
Qui détermine, enfin qui.
Bah, en fait, après, ça va être dans l'environnement. En fait, une huître va vivre dans un environnement. Et en fait, il faut voir que chaque coquille, c'est un disque dur, hein, qui va enregistrer tous les paramètres chimiques de l'environnement. Et on a espoir, en fait, parce que c'est vrai qu'à l'issue de chaque fleuve va drainer des éléments chimiques différents. Donc, on essaye de voir et de pister ces informations-là, oui.
Oui, je voulais revenir sur les buttes huîtrières de Beauvoir. Tu as dit qu'il y avait des éléments qui permettaient de les associer à la période 10e, 13e siècle.
Oui.
Ça se présente comment? Alors, c'est du matériel qui est au milieu des huîtres ou c'est des choses autour?
Malheureusement, ça a été fouillé vraiment en petite quantité. Alors, par exemple, à Saint-Michel-en-Lerme, on avait retrouvé des monnaies, des éléments qui permettaient de dater précisément l'accumulation. Et ce qui a été fait à Beauvoir-sur-Mer et ce qui avait aussi été fait en parallèle à Saint-Michel-en-Lerme, c'est qu'on a la possibilité de dater les coquilles et d'utiliser des calibrages sur l'effet réservoir qui nous ont permis d'avoir cette information-là. Donc après, il y a aussi l'archéologue qui est responsable et qui avait aussi des informations sur, parce que c'est aussi attenant à un château, et sur les indices de construction. Donc, mais c'est vrai que moi, j'aurais envie sur Beauvoir-sur-Mer, bah, de réaliser une fouille de plus grande ampleur pour avoir plus d'éléments datant, parce que vous avez pu voir que l'accumulation va jusqu'au trait de côte à l'époque. On peut très bien imaginer une activité qui a peut-être duré pendant quand même plusieurs années, voire plusieurs dizaines ou centaines d'années, et on pourrait peut-être avoir une chronologie de l'accumulation. Pour l'instant, on a vraiment, là je peux décrire un fait, mais pas quelque chose de chronologique. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. Je pense que les historiens, là, il faudrait qu'ils travaillent sur les textes pour nous apporter plus d'informations.
Oui, je crois qu'effectivement, il ne faut pas attendre beaucoup des historiens, puisque les textes ne parleront pas de coquillages. Par contre, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut peut-être trouver par d'autres biais. Par exemple, ces zones dans lesquelles on trouve ce traitement du pourpre ou de la pourpre après, c'est des zones qui sont quand même très particulières, que ce soit la baie de Bourgneuf ou la zone autour de ce qui sera La Rochelle. On est dans des espaces qui sont complètement envahis par le roi, l'aristocratie, les grandes abbayes, y compris des abbayes très lointaines, hein, des abbayes de Belgique, des bords du Rhin, etc., très très tôt, dès le 7e, 8e siècle. Alors, on a mis toujours ça en liaison avec l'exploitation du sel. Il y a peut-être aussi d'autres éléments associés, et pourpre en particulier. Alors, on connaît le statut très particulier des tissus de ce type-là pour l'Antiquité. Après, le statut me paraît un peu moins clair ça reste quand même très chic. C'est le kermesse et la pourpre, c'est les choses très chic parce que c'est très long. Voilà, il y a les manuscrits à fond pourpre carolingien.
Je sais pas, au niveau de la religion, peut-être, non ? Il y a peut-être des... Non ?
Non, bon, le rouge n'est pas une couleur très religieuse.
C'est
après.
Pourpre, hein, c'est
à part le manteau de pourpre. Mais on est quand même des espaces qui sont effectivement des espaces très contrôlés par le pouvoir et peut-être pas que pour le sel. Quoi. Et ça révèle cet élément-là. Et puis un élément sur la coquille Saint-Jacques, je m'énerve toujours contre les fantasmes actuels sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, qui me paraît être un épiphénomène. Mais on s'est aperçu récemment que ces tombes avec des coquilles Saint-Jacques pouvaient représenter non pas des pèlerins, mais des gens qui appartenaient à des confréries de Saint-Jacques. C'est le cas à Paris, par exemple. À Saint-Jacques, la plupart des gens n'avaient jamais fait le pèlerinage à Compostelle, mais se faisait enterrer avec des coquilles Saint-Jacques parce qu'ils appartenaient à la confrérie parisienne. Ville dont ils n'étaient jamais sortis, peut-être.
Bah là, les analyses chimiques pourraient nous aider, alors.
Oui. Voilà, donc je ne sais pas d'où viennent ces coquilles qui récupèrent.
D'où viennent ces coquilles, oui.
Mais effectivement, ce ne sont pas des vrais pèlerins. Mmh. Pas toujours.
Vous travaillez aussi dans d'autres pays d'Europe ou vous avez envie de...
En fait, je travaille beaucoup en ce moment sur le Portugal parce que c'est pour la préhistoire. Parce qu'en fait, je travaille aussi sur les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs. Et au Portugal, on a des buttes en fait de plus de 5 mètres de haut qui sont des accumulations de coquillages de chasseurs-cueilleurs. Et là, on travaille sur ces problématiques-là au laboratoire parce qu'on se demande en fait si la présence de ce frigo immense que représentent les ressources marines n'ont pas aidé à certaines populations du littoral à s'implanter durablement dans le temps. Donc on commence à avoir des indices en fait de résidence prolongée de ces chasseurs-cueilleurs qui étaient par le passé décrits comme des nomades et finalement ils ne sont peut-être pas si nomades que ça. Donc là je travaille sur les coquillages pour avoir des informations là-dessus et j'essaye de savoir en fait quand est-ce que ces coquillages ont été pêchés pour avoir des informations d'indices de présence de l'homme dans le temps.
Les étudiants prennent des notes, mais en général, ils ne posent pas de questions après la conférence, quelquefois.
On verra.
D'accord, vous pouvez suraller.
Bon, en tout cas, merci à tout le monde d'être venu.
C'était très, très bien. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Merci.